Santé. Bon midi, j'espère que vous allez bien en cette dernière journée de la semaine québécoise, oui, des personnes handicapées, Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » qui débute à l'instant sur Canal M. Aujourd'hui, nos sujets à l'émission, les proches aidants qui auraient des besoins et des défis différents que leurs homologues féminines, ce qui nous amène à penser que leur façon de faire, la façon de les aider aussi, de les appuyer dans leur rôle, ça peut être bien différent. On en parlera avec Rose-Anne Saint-Paul, elle est coordonnatrice du projet « Des outils pour les aidants » du réseau d'action pour les aidants de Jeanne-Mance. Aussi, déplaçons les montagnes. C'est le défi de 13 personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et qui feront l'ascension du Mont Arfan cette fin de semaine, le 10 juin prochain. Patrick Castonguay, lui, est enseignant au cégep de Baie-Comeau. Il sera là pour nous parler de ce projet, disons-le, un petit peu audacieux. Aussi, des jeunes qui vivent avec le syndrome de Gilles de la Tourette témoignent dans une série de capsules web qui s'intitule « Tourette ici » pour sensibiliser à cette maladie qui est encore assez méconnue. Et je reçois l'instigatrice du projet, Julie Leclerc. Elle est professeure au département de psychologie à l'UQAM et chercheuse à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et tout à l'heure, Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, conférencière et auteure, sera là pour nous parler de son tout nouveau livre qui s'intitule « Élie, comprendre la dépression à l'adolescence ». C'est publié chez Midi 30. Et tout ça, mais avant la revue de presse de Christiane Campagna. Allô, Christiane Campagna.
Allô, Marianne.
Merci d'être là. On débute avec une nouvelle parue dans la presse. Manipuler un objet et se calmer. C'est vrai que des fois, ça fonctionne.
Oui, sauf que là, ces temps-ci, ça a tourné un peu à la folie. C'est qu'il y a un objet qui était conçu normalement pour cette fonction-là, mais qui connaît une très grande popularité auprès des enfants, au point d'être interdit dans certaines écoles et au point où je vais vous citer deux articles qui en parlent, et quand même dans la presse et le Devoir. Alors, c'est vraiment un phénomène. Donc, bien qu'il soit d'abord annoncé comme un outil favorisant la concentration, le fidget spinner, comme on l'appelle, connaît depuis le début de l'année un succès qui dépasse, disons, largement les besoins thérapeutiques. Et au point où le magazine Forbes aux États-Unis le nomme déjà le jouet de l'année 2017. On cite dans la presse Karine Gagné qui dit « C'est vraiment de la folie, c'est la première fois que je vois ça, on a beaucoup de mal à en garder en stock. » Elle est présidente de FDMT, une entreprise spécialisée dans les outils d'apprentissage. Mais au-delà du divertissement, est-ce que cet objet tient ses promesses? On peut en débattre, tempère-t-elle. Le fait de tourner et ressentir la vibration dans sa main peut permettre à certains de mieux se concentrer. Mais est-ce que c'est l'idéal en salle de classe? Elle n'en est pas convaincue, surtout qu'il y a tout ce phénomène de mode et de nouveauté. Il ne suffit pas d'un objet à manipuler pour régler un problème d'attention ou de stress, a ajouté Caroline Huard. Disons qu'un enfant a accès à un spinner dans son coffre à crayons. S'il sent que quelque chose ne va pas, il va avoir le réflexe d'aller chercher et de gosser avec. Ça peut l'aider, mais pour qu'il en retire des bienfaits, il faudra avoir une approche plus globale. Il faudra amener l'enfant à être conscient qu'il est stressé, par exemple, et que c'est pour cette raison qu'il utilise cet outil.
Ça devient une béquille, en fait, l'objet.
À ce moment-là, il y a aussi tout l'aspect de la distraction. Jessica Nadeau, dans Le Devoir, elle a consulté Hélène Poisson, professeure au département d'éducation et pédagogie à l'Université du Québec à Montréal, qui dit qu'à première vue, ça lui semble un peu farfelu. Elle veut bien y croire, mais que ça prend des faits prouvés scientifiquement et qu'elle n'a trouvé aucune étude sérieuse sur le sujet. Notre psychologue ici qui opine du bonnet. Il est vrai que les appareils similaires à la toupie anti-stress sont utilisés en classe. Il y a des ballons utilisés comme siège, des balles de stress. On parle même dans certaines classes de vélos stationnaires. Mais le problème avec ce cas-ci, c'est qu'elle nécessite tellement de concentration que les élèves ont plus d'attention à consacrer, à ce qui se passe en classe. Donc, on passerait à côté de l'objectif complètement dans ce cas-ci. Et on note qu'il y a de plus en plus d'écoles à Montréal qui les interdisent.
Il y a probablement des objets plus favorables pour se calmer les nerfs.
Exactement.
Maintenant, vous allez nous apprendre, Christiane, ce qu'est le canicross, parce que ce serait une façon de motiver les jeunes à leurs examens d'éducation physique.
Oui, c'est un article d'Audrey Maltais du Courrier du Saguenay. Une professeure d'éducation physique de l'Odyssée Dominique Racine à Chicoutimi, elle s'appelle Marie-Ève Bouchard, a décidé de modifier légèrement son test final de course pour sa classe de secondaire 3. Les jeunes ont eu la chance de faire une partie de leur examen en compagnie d'un chien. Alors, déjà, l'enseignante amenait ses élèves courir à l'extérieur lorsque la météo le permettait. Ils ont à proximité de l'école un parc, le parc de la rivière du Moulin, qui est proche. Et c'était, elle trouvait que c'était l'endroit idéal pour faire le test final. Elle voulait motiver les jeunes, mais surtout trouver un moyen de leur faire apprécier la course. C'est pas tout le monde qui aime faire du sport en général, ou il y en a pour qui juste courir pour courir aussi est quelque chose de plate. Elle a vu sur Facebook qu'aux États-Unis, une école avait fait une course avec les chiens. Alors, elle a contacté diverses organisations. Et c'est finalement le club sport-attraction canin qui a accepté d'embarquer dans l'aventure parce que ça prenait des animaux. Alors, on trouvait que la dame de cette association-là, Josée Savard, a dit qu'elle trouvait que c'était un très beau projet pour son club. Pour motiver quelqu'un à courir, dit-elle, il n'y a rien de mieux qu'un chien. Et elle a ajouté que le canicross est devenu une passion pour tous les membres de son club. Alors, c'est une amie de Mme Bouchard qui a sa meute de chiens de traîneau qui a accepté d'amener ses bêtes pour l'activité. À la fin de la course, les jeunes semblaient avoir vraiment apprécié l'expérience, au dire de la professeure. Cette dernière compte refaire l'expérience dans l'avenir.
C'est une très belle initiative et ça prouve que des fois, quand on se creuse un petit peu la tête, on peut arriver à faire de très belles choses.
Oui.
Maintenant, 39 % des Canadiens mangent leur lunch à leur poste de travail selon une étude et j'en suis. Et voilà, c'est pour ça que vous avez choisi cette nouvelle.
Un petit peu, oui. Des fois, il faut personnaliser même un peu. C'est un sondage qui concernait aussi d'autres repas, mais j'ai retenu cette partie-là qui faisait d'ailleurs le titre. Donc, un article de la presse canadienne qui est paru dans le Huffington Post. Signe tant que le marché du travail, que nos habitudes alimentaires ont changé, 39 % des Canadiens consomment leur repas du midi assis à leur poste de travail. C'est un sondage réalisé pour le compte de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. C'est même une proportion plus importante que ceux qui mangent à la maison le midi, soit 37 % et 24 % de ceux qui restent consomment leur repas dans une cafétéria ou une cuisinette. La plus récente étude de l'équipe de Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politique agroalimentaire à cette université, montre à quel point les habitudes des Canadiens ont changé. On voit vraiment que notre style de vie affecte notre façon de consommer de la nourriture, que ce soit le déjeuner, le dîner ou le souper. On voit que les gens sont à la presse de plus en plus, a résumé le professeur Charlebois au cours d'une entrevue. Et on note aussi que les femmes sont plus enclines à sauter le repas du midi que les hommes et qu'il en est de même pour les célibataires. Moi, je le dirais pour le souper, là, pour quand on habite seul, c'est assez facile de sauter un repas ou de dire « je vais manger une patate ».
Oui, oui, de démarrer une télésérie, de manger devant aussi l'ordinateur, devant l'écran, qui est un compagnon peut-être moins agréable.
Voilà. Je vous invite à aller consulter l'article parce qu'on note aussi des changements d'habitude pour les autres repas de la journée.
C'est dans le Huffington Post. Et article de la presse canadienne, en fait.
Voilà.
Merci beaucoup, Christiane Campagna, pour cette revue de presse toute personnalisée. C'est toujours un plaisir. Oui. C'est la psychoéducatrice que l'on entendait tout à l'heure. Ben, en fait, donc Christiane parlait tout à l'heure, qui opinait du chef Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, donc conférencière et auteure de ce tout nouveau livre, Élie, comprendre la dépression à l'adolescence, paru chez Midi 30. Et dans ce livre-là, Stéphanie, on suit Élie, 15 ans, jeune adolescente, qui, pour ma part, j'ai trouvé bien sage. Parce qu'elle a cette maturité d'aller consulter assez rapidement le médecin de famille lorsqu'elle pense avoir une dépression, elle va moins bien, elle en parle même à ses parents. Or, selon les statistiques, il y a peu d'adolescents qui vont chercher de l'aide et qui parlent de leurs symptômes de dépression.
Ouais.
Donc, Élie, ce n'est pas la première référence. Disons que c'est plutôt ce qu'il faudrait faire.
Oui, bien, en fait, Élie, c'est nommé à un moment donné dans le livre, tu sais, un de ses facteurs de risque. Un des facteurs de risque à la dépression à l'adolescence, c'est la maturité précoce.
Ouais.
Alors, effectivement, Élie a une maturité qui est peut-être être plus grande que la majorité des jeunes de 15 ans. Puis c'est vrai que les jeunes d'emblée ne vont pas en parler. En fait, souvent, ils ne se comprennent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Ils vont souvent rester pris avec ça. Ils vont peut-être un peu en parler à leur ami, mais encore, ils ont peur peut-être des jugements. De plus en plus, ils vont aller peut-être sur Internet faire des petites recherches et tout ça. Puis c'est pas nécessairement toujours des bonnes sources. Ils vont pas vérifier, en fait, là, quelles sont les références. Et voilà. Donc, Élie, c'est peut-être plus une compagne. Ce qui arrive, en fait, souvent, c'est que ce sont les parents qui, quand ils s'inquiètent pour leurs enfants ou quand ils sont dans ce processus-là, qui vont l'acheter pour leur enfant, pour leur ado, pour que l'ado puisse avoir un point de repère, si on veut, puis un modèle.
Oui, parce que c'est super bien fait. C'est amené comme un blog, donc une façon très accessible pour les ados, mais aussi pour leurs parents. Et cette Élie, elle fait bien d'en parler à ses parents parce qu'on découvre dans le récit que son père a déjà eu une dépression lorsqu'il était jeune, et ça aussi, c'est un facteur de risque.
Tout à fait. En fait, tant au niveau génétique qu'au niveau de l'apprentissage qu'on appelle vicariant, donc par observation, c'est-à-dire qu'une personne qui a déjà souffert de dépression, on sait qu'elle est beaucoup plus à risque, elle aussi, d'en refaire une autre. On sait aussi que dans ces stratégies de coping ou d'adaptation, bien, on peut voir des distorsions cognitives, des choses qui sont peut-être moins adaptées à la réalité, puis qui peuvent faire en sorte que, bon, c'est ce qui va faire en sorte qu'on sera plus à risque d'en revivre une autre. Donc, Élie, c'est sûr qu'elle est exposée à ça, tout d'abord sans le savoir. Finalement, quand son père ouvre ça avec elle, bien, ça lui fait du bien. Ouais. Elle se sent moins seule, elle se sent plus comprise, elle se sent pas du tout jugée non plus par ses parents parce que c'est une réalité qu'ils connaissent, et donc ça la met en confiance et ça la rend plus à l'aise.
C'est une façon aussi de mieux comprendre ce qui nous arrive, de dire OK, je peux avoir un miroir, je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Notre Élie, on le disait tout à l'heure, elle a cette maturité précoce. Elle semble aussi une jeune fille qui aime bien la performance. Elle se décrit comme quelqu'un de posé, même lorsqu'elle était jeune, petit léotard, pour les cours de danse, là, tout est parfait. Est-ce que ça aussi, c'est un trait de personnalité qui peut plus amener vers des troubles anxieux ou la dépression?
Bien oui, c'est sûr que ce sont des facteurs prédisposants aux troubles intériorisés. Donc justement, de plus en plus, on en parle, de l'anxiété de performance, puis le désir de plaire, le désir de ne pas décevoir, le désir d'être la meilleure de soi-même et la meilleure comparativement aux autres. Donc oui, c'est forcément un facteur de risque puis qu'Élie présente et qu'on voit là, tout au long du récit, comparativement à sa meilleure amie, qui est beaucoup plus éclatée, qui est peut-être plus free spirit, plus à l'aise avec elle-même, avec son corps, avec sa personnalité. Donc ça aussi, je pense que ça peut être un beau modèle pour Élie.
Ce qu'on apprend dans le livre Stéphanie Deslauriers, c'est que les filles sont plus touchées par la dépression. J'étais pas si étonnée. En fait, ma réaction, ça a plus été bon encore. Bon, peut-être pas nécessairement le bon réflexe, mais il y a des raisons à ça.
Bien, en fait, d'une part, il y a une manière très... Une explication très sociale, très sociétale, la manière dont on élève nos filles. On élève nos filles pour qu'elles soient gentilles, douces, qu'elles aient l'air de toujours bien aller, qu'elles aient l'air de toujours aimer tout le monde. Donc, de ne pas nécessairement extérioriser leur détresse, leur colère. C'est pas beau, c'est pas féminin. Alors, les filles, ce qu'elles vont faire quand elles se sentent en détresse, c'est qu'elles vont retourner cette détresse-là ou cette violence-là, si on veut, qu'elles peuvent ressentir contre elles-mêmes. Donc, c'est vrai pour la dépression, mais c'est vrai pour les troubles anxieux, les troubles alimentaires. Donc, tout ce qui est trouble dit intériorisé. Et à l'inverse, également, de par la façon dont on élève nos garçons, ils vont être beaucoup plus à risque de présenter des troubles extériorisés, comme des troubles de la conduite, troubles d'opposition avec provocation, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Donc, c'est quelque chose qu'on observe, qui est très genré, puis qui a une grande, grande influence au niveau des apprentissages et de la manière dont on élève nos enfants.
Est-ce que les symptômes sont genrés aussi? Parce que j'aurais l'impression que les garçons auraient peut-être des comportements plus à risque et les filles, des comportements peut-être plus d'ordre de la sexualité plus complexe. Est-ce qu'on peut dire ça?
Bien, oui, c'est vrai qu'on va observer des fois certaines différences quant à la manifestation des symptômes. Donc oui, chez les filles, on va voir des comportements plus à risque au niveau de la sexualité, par exemple, la consommation. Chez les garçons, peut-être plus affiliés à des pères déviants. On sait qu'il y a une grande proportion des décrocheurs aussi qui ont un profil dépressif. Alors ça, c'est non négligeable. Et oui, on voit une distinction en fonction là, du genre... de la personne. Puis je vous dirais que c'est assez vrai à l'âge adulte parce qu'on est encore conditionné à comment est-ce que j'ai appris à me comporter socialement et comment j'ai appris à extérioriser ma détresse ou à l'intérioriser finalement. Là.
Je veux m'adresser aux parents qui nous écoutent, Stéphanie. Comment on départage un comportement, disons, régulier de l'adolescent et sans tomber toujours dans « bon, c'est de la faute à la crise d'adolescence et des comportements qui peuvent nous inquiéter? »
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise d'adolescence, à prime abord, c'est un mythe. En fait, il y a moins, il y a moins de 10 % des jeunes ados qui vont passer à travers une crise à proprement parler. Ceci étant dit, l'adolescence, c'est pas facile, OK? Il y a tous les changements au niveau corporel. D'ailleurs, ça, c'est un facteur de risque chez les filles parce que souvent, elles ont leur puberté en même temps que la transition primaire-secondaire. Donc, ça fait comme beaucoup à gérer. Donc, il y a ce changement-là, les changements physiques, les changements hormonaux qui sont non négligeables également parce qu'il faut se rappeler que la dépression, c'est un débalancement au niveau de la sérotonine dans le cerveau, donc qui est un neurotransmetteur. Il y a des choses pas faciles qui se passent à l'adolescence. On se détache de la famille pour répondre à notre besoin d'appartenance auprès de nos amis. On est en grosse quête identitaire. Je veux être unique, je veux être moi, mais je veux pas trop ressortir du lot. Je veux pas être marginalisée. Alors, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile. On y va beaucoup à tâtons par essai-erreur. Donc, première chose pour la crise d'adolescence. Et deuxièmement, comment savoir si ça s'inscrit plutôt dans une dynamique là, de symptômes dépressifs. Ce qu'on va observer, bien, ça va être la récurrence, la chronicité, la fréquence, l'intensité des symptômes, des manifestations. D'ailleurs, dans le livre, je parle des symptômes diagnostiques, en fait, qu'on trouve dans le DSM-5. Donc, tout ce qui est au niveau de l'altération, au niveau de l'appétit, du sommeil, de l'humeur, l'irritabilité.
La fatigue, plus être capable. Élie, elle l'a décrit, je suis même plus capable de m'habiller. Ouais. Donc là, à ce moment-là, on peut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est aussi la perception qui change quand on est ado, même pré-ado, on est plus grand, justement, notre corps change et les autres nous perçoivent différemment comme une femme quand dans notre tête, on n'est peut-être pas rendu là. Mm-mm. Et ça aussi, en ce qui a trait à la distorsion, ça doit jouer.
Oui, les attentes que les autres ont envers nous, effectivement. Puis c'est vrai chez les jeunes qui vont être très grands, qui vont être développés, qui vont avoir une puberté précoce, on s'attend à ce qu'ils soient plus vieux ou que leur âge, leur maturité affective corresponde à leur maturité physique, ce qui n'est pas le cas.
En terminant, je veux rappeler que c'est important de diagnostiquer, bien sûr, la dépression, de le faire le plus rapidement possible, de bien le faire selon la médication, bon, les différents suivis, parce que sinon, ça peut devenir récurrent et même à l'âge adulte. Hein.
Tout à fait. On peut parler de dépression chronique et ce qu'on sait, c'est qu'à une fois qu'on a vécu une dépression dans notre vie, on est beaucoup plus à risque d'en faire une deuxième puis une troisième. Donc, de diagnostiquer, donc d'aller voir notre médecin de famille, pédopsychiatre pour les ados, de recevoir un traitement pharmaceutique aux besoins qui est approprié et surtout de consulter, d'aller chercher des outils avec l'aide des professionnels.
Parce que quand ça devient plus grave ou plus récurrent, c'est là aussi le risque de décrochage qu'on veut absolument éviter. On peut aussi aller voir un psychoéducateur, une psychoéducatrice comme vous l'êtes, Stéphanie Deslauriers, conférencière et auteure de ce livre « Élie, comprendre la dépression à l'adolescence » chez Midi 30 également. Vous êtes, je dirais, fondatrice ou là à la tête de ce blog Ensemble Maintenant, ensemblemaintenant.com.
Ben, merci infiniment.
Bon été.
Et à vous aussi.
Des jeunes qui vivent avec le syndrome de Gilles de la Tourette témoignent de leur réalité dans une série de capsules web intitulée « Tourette et compagnie » pour sensibiliser à cette maladie qui est encore bien méconnue. Et moi, j'en parle à l'instant avec Julie Leclerc. Elle est professeure au département de psychologie à l'UQAM et chercheure à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Bonjour, Julie.
Bonjour.
Je les ai vues, moi, ces capsules-là. J'ai trouvé ça, d'une part, assez éclairant. Moi qui ne connaissais pas grand-chose sur ce syndrome, mais je me suis dit que si ça avait dû être parfois difficile de témoigner de sa réalité, ça a dû faire du bien à ces jeunes-là. Au départ, pourquoi vous avez eu envie de créer des capsules?
Bien, en fait, l'idée de produire des capsules vidéo, c'est né du désir de présenter des témoignages et des images de personnes aux prises avec des TIC en français, parce qu'il y a des vidéos, des fois, qu'on trouve sur Internet qui sont faites ailleurs, et donc souvent c'est en langue, en anglais. Et donc, pour présenter dans des formations ou dans des congrès, pour appuyer le discours professionnel ou le discours scientifique que moi, j'apporte.
Oui. Il faut dire qu'il y a encore beaucoup de préjugés par rapport au syndrome de la Tourette, bon, notamment sceptique, la peur d'être insulté, de ne pas trop savoir comment gérer cette personne-là. Comment on pourrait défaire? Bien, d'une part, quels sont les préjugés récurrents et comment on peut les déboulonner?
Mais en fait, c'est exactement ça. Le but parallèle des capsules, c'est justement de faire la transmission des connaissances, d'informer les gens. Puis d'une manière, en passant par les gens atteints eux-mêmes, c'est souvent plus accessible. Les préjugés principaux, bien, vous les avez nommés, hein, c'est beaucoup, ce qui revient toujours systématiquement, c'est « Ah oui, les gens qui ont le syndrome, j'ai de la Tourette, c'est ceux qui sacrent tout le temps ou qui vont dire des gros mots. » Cette problématique-là, elle existe, ça s'appelle la coprolalie, mais c'est environ 5 % des gens qui sont atteints du syndrome de Gilles la Tourette qui vont avoir de la coprolalie. Donc, c'est très, très rare et c'est donc à un peu à l'extrême au niveau de la sévérité de la problématique. Dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus subtil ou simple que ça, même si ça complique beaucoup la vie des gens et des familles.
Oui. Quels sont les comportements peut-être plus récurrents que l'on observe plus souvent?
En fait, le tic qui apparaît le plus souvent en premier, c'est un clignement des yeux. Mais un clignement des yeux, tout le monde doit cligner des yeux. Donc, c'est un clignement des yeux qui est plus fréquent que nécessaire et qui est plus fort, qui va nécessiter là les muscles des joues, du front, qui va être beaucoup plus intense que ce qui est réellement nécessaire. Fait que ça, c'est un tic qui est qui est très fréquent et qui est souvent celui qui apparaît en premier. Sinon, il y a donc toutes sortes de tics moteurs, souvent dans le haut du visage ou les épaules. Et il va avoir ce qu'on appelle des tics sonores. Alors, ça peut être juste des petits sons, des petits cris, des roulements de gorge, un peu comme qui pourrait ressembler au croissement d'une grenouille. Différents sons qui peuvent être faits, qui sont souvent en lien avec une contraction abdominale ou une séquence précise dans la respiration. Donc, c'est tout entremêlé, les tics moteurs et les tics sonores.
Oui. Julie, pourquoi, ou peut-être qu'il n'y aura pas de réponse, mais je vous la pose quand même, pourquoi les garçons sont plus touchés par le syndrome Gilles de la Tourette?
C'est une bonne question. J'ai plusieurs collègues qui font des études, soit sur le plan plus génétique ou neurologique, pour comprendre ces différences-là sur le plan vraiment physiologique, physionomique de la personne, dans le fond. C'est pas la seule problématique. On le sait pour le TDAH, par exemple, pour les troubles du spectre de l'autisme. Il y a une prévalence plus élevée chez les garçons. Et souvent, le parallèle qu'on va faire, c'est que dans ce qu'on appelle les troubles intériorisés, donc les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, la proportion de filles ou de femmes est plus élevée généralement que d'autres problématiques. On n'a pas encore des réponses très, 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 très claires sur ces éléments-là.
Ce qui est clair, c'est que ça ne se guérit pas, le syndrome Gilles de la Tourette, mais ça peut s'encadrer, j'imagine. De quelle façon?
Absolument. Ça se guérit pas parce que c'est un état, un peu comme le TDAH. C'est bien reconnu maintenant que ça continue jusqu'à l'âge adulte. Ça prend une autre forme, évidemment, parce qu'on change, on vieillit, nos activités changent. Maintenant, c'est bien reconnu l'importance, en fait, de faire une thérapie cognitive comportementale pour la gestion des tics en complément ou en parallèle avec la médication. Plusieurs jeunes vont prendre une médication, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, il n'y a rien de spécifique. Mais la thérapie, ce que l'on fait en thérapie, c'est d'abord on fait réaliser à la personne qu'il y a des moments où il n'y a pas, où il y a moins de tics. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, tes pensées, tes émotions, ton état physiologique de tension est différent que dans d'autres situations où il y a beaucoup, beaucoup de tics. Et on va travailler donc à réorganiser les comportements au quotidien pour diminuer les tics, pour mettre la personne dans un état plus favorable à ce qu'il y ait moins de tics.
Est-ce que, Julie, c'est comme le TDAH, en vieillissant, on se trouve des petits trucs pour mieux évoluer, des repères également pour fonctionner au quotidien?
Bien, il y a un aspect très cognitif à ça, hein, la maturation cognitive où toutes les fonctions exécutives, toutes les stratégies d'autocontrôle prennent plus de maturité en vieillissant, point. Mais aussi, oui, il y avait un temps, ça circulait beaucoup sur Internet, l'espèce d'idée qu'il y avait une rémission spontanée à l'âge adulte des tics. Pour reconnaître beaucoup d'adultes qui ont des tics, c'est une fausse croyance. Par contre, oui, ça peut diminuer. Et ce que l'on sait à l'aide de résultats d'études aussi, c'est que les gens vont dire « Ah non, moi, j'ai plus de tics, ça me dérange pas. » Mais si on les filme, on va se rendre compte que les gens vont faire des tics quand ils sont seuls dans leur voiture, par exemple. Ou quand. Donc, les tics vont être évacués quand même, mais à des moments où c'est vrai que ça dérange moins. Mais ils sont aussi parfois moins intenses. Ça dépend vraiment des gens.
La première capsule, Parlons ensemble, Tourette et compagnie, peut être visionnée sur YouTube. Et vous êtes en train d'en concocter d'autres pour l'automne, Julie.
Oui, en fait, la première capsule qui est plus longue, qui est d'une durée de 10 minutes, celle qui est en ligne, effectivement, sur YouTube, le lien qui héberge, dans le fond, les capsules, c'est le tictactoc.org. Celle-là comporte surtout des témoignages, quelques renseignements donnés par une psychologue de notre équipe. Mais ensuite, il y a 5 autres capsules qui vont être mises en ligne à partir de l'automne, et ce, à raison de une fois par mois. Ces capsules-là vont être plus courtes, donc environ 5 minutes, vont aussi être pleines de témoignages des gens, mais vont avoir une petite fonction un petit peu plus éducative. Il va y avoir plus d'informations, soit écrites dans la capsule, soit des spécialistes qui vont être interviewés pour donner l'information la plus juste possible à la problématique. Et chacune des 5 prochaines capsules va avoir un thème précis. Donc, on va parler des émotions et de la famille. On va parler uniquement d'éthique. On va parler des troubles associés, du regard des autres. Et enfin, la dernière capsule, ça va être sur l'intervention et le traitement.
On rappelle tictactoc.org. Julie Leclerc, vous avez une minute à peu près pour nous parler de vos projets de recherche, notamment l'effet de la thérapie sur les jeunes.
Oui, ben merci, parce qu'en fait, c'est ça, pour bien desservir cette population-là, nous, on fait des études cliniques où on évalue l'effet de thérapie pour diminuer les tics, mais j'ai aussi une étude qui vise à diminuer les épisodes explosifs, donc les crises chez les jeunes qui sont atteints du syndrome G de la Tourette. On a besoin de gens qui vont à ce moment-là bénéficier d'une thérapie qui est gratuite dans le cadre du protocole de recherche. Alors, vous pouvez aller sur le même site que les capsules, le tictactoc.org, ou téléphoner au centre de recherche de l'Institut pour avoir des renseignements et pour vous inscrire éventuellement.
Très bien. C'est une très belle perche que vous lancez là, Julie Leclerc. Vous êtes professeure au département de psychologie à l'UQAM et chercheure à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le syndrome Gilles de la Tourette aujourd'hui.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et nous, on se retrouve après la pause. Restez pas loin. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Toujours Marianne Paquette avec vous. Vous êtes sur Canal M. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. On parlera avec Rosanne Saint-Paul. Elle est coordonnatrice du projet des outils pour les aidants du réseau d'action pour les aidants de Jeanne-Mance. Et avec elle, on parlera des hommes proches aidants. Est-ce qu'ils ont des défis différents, des besoins différents? Est-ce qu'on doit les appuyer dans leur rôle aussi de façon distincte qu'avec les femmes proches aidantes? On pourra éclaircir ce sujet avec Mme Rosanne Saint-Paul. Mais pour le moment, je joins Patrick Castonguay à Bécomo. Bonjour, Patrick.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, vous-même?
Oui, très bien, merci.
Vous êtes enseignant responsable de la coordination des stages et intervenant psychosocial spécialisé en plein air. Et avec vous, on parle de ce projet qui est assez audacieux, le projet Déplaçons les montagnes, qui a lieu ce week-end avec 13 personnes qui vivent avec un handicap. Vous allez faire l'ascension du Mont Arfan dans les Monts Gros. C'est dans votre coin, ça, Patrick.
Tout à fait.
J'imagine que la fébrilité, là, elle commence à se faire ressentir à quelques jours du départ.
Oui, bien, c'est sûr. En fait, là, c'est tout proche de départ. On part vendredi pour l'ascension. C'est autant là, dans l'équipe d'intervenants que dans les participants. Là, il y a une hâte qui est là. Puis ça fait déjà quelques temps qu'on travaille sur tout ça. Ça doit faire depuis janvier là, qu'on fait les préparatifs. Donc oui, le groupe a bien hâte de partir à l'aventure.
Qui a eu cette idée de fou un peu, Patrick?
À la base, c'est une idée, là, le projet d'expédition dans les Monts-Groulx, en fait, à Baie-Comeau, c'est situé pour placer là, à 3h30 environ, un peu plus haut que Manic 5.
Oh là là!
Sur la 389, donc c'est vraiment le massif des Monts-Groulx qu'on retrouve là, à quelques kilomètres de Manic 5. Moi, c'est un territoire là, que je pourrais dire, c'est un bijou de la Côte-Nord. C'est pas un parc qui est aménagé nécessairement, donc c'est beaucoup des bénévoles pendant des corvées qu'on aménage, des sentiers pour aller vers les monts. Mm-hmm. C'est un endroit qui est moins connu, donc moi, j'y vais quand même assez souvent, là, étant passionné de plein air, puis vu que c'est dans mon coin aussi de pays. Ça faisait longtemps que, par mon travail, je collabore beaucoup avec des personnes en situation de handicap aussi. Donc, j'avais le goût d'apporter un groupe de clients pour vivre l'aventure, c'est de travailler le dépassement de soi. Puis dans le cas qu'on a aujourd'hui, bien, on le fait pour une levée de fonds, en fait, là, pour Destination Loisirs 2018.
Oui, on va y revenir à ce projet-là. Je veux revenir à cette clientèle que vous connaissez parce que vous travaillez avec ces gens depuis quelques années, Patrick. Qui sont les gens que vous amenez avec vous faire l'ascension du Mont Arfan?
Le but, c'est vraiment d'aller avec une clientèle qui est plutôt large. Dépendamment des programmes d'activité en plein air, l'intervention en plein air, on essaie d'avoir une certaine homogénéité dans nos participants. Mais là, l'idée, c'est de vraiment d'ouvrir au plus large éventail possible parce qu'on veut représenter aussi là, la clientèle possible pour Destination Loisirs, qu'on va sûrement parler dans quelques minutes.
Oui, certainement.
Mais on est allé assez large. Le but, c'est effectivement là, c'est toujours une idée d'avoir une aventure qui ne sera pas nécessairement trop déséquilibrante pour le groupe, mais qu'on va travailler vraiment un besoin commun. Donc, dans notre cas, présentement, là, je pourrais vous dire qu'on a peut-être 4 participants en déficience visuelle, peut-être 6 ou 7 personnes en déficience intellectuelle, puis sinon des personnes avec un TSA aussi. Donc, on a une grande variété dans les limitations, si je peux dire ça comme ça, mais aussi dans les âges. Donc, on a le plus jeune participant à 13 ans, puis nos deux personnes là, les plus âgées ont dans la soixantaine, si je ne me trompe pas. Donc, on a une belle variabilité là, dans nos participants.
C'est assez particulier, Patrick, parce que j'imagine qu'on ne prépare pas une personne qui a un handicap intellectuel comme une personne qui présente un trouble du spectre de l'autisme pour ce genre d'expédition.
Oui, bien, tout à fait. Nous, c'était l'idée de partir en mois de janvier pour faire les premières rencontres, pour vraiment regarder le potentiel puis les limitations que les personnes peuvent avoir, puis en fait, trouver des facilitateurs. Puis ce qui est bien dans notre groupe, c'est qu'on a travaillé aussi pour que le groupe se prennent en main un peu par lui-même aussi. Donc, on a des pairages qui ont été faits d'une manière très naturelle. Je prends un exemple. Là, on a une personne qui a une déficience visuelle dans le groupe. C'était drôle d'avoir, c'est un plus jeune avec une déficience intellectuelle qui allait un peu l'aider dans ses déplacements, dans les bouts, parce qu'on a fait des petites randonnées préparatoires aussi. Donc, dans des bouts plus escarpés, c'est le fun de voir qu'il y a un pairage naturel qui se fait entre des personnes qui viennent se compléter un peu là, dans ce qui est difficile pour elles-mêmes. Puis nous, les guides, ce qui est bien, c'est qu'on vient chapeauter tout ça. On vient vraiment aider quand les situations un peu plus difficiles. Mais le but serait que le groupe réponde par lui-même à ses besoins là, pour viser des fins éducatives dans ce sens-là.
C'est une randonnée de 12 km. On parle de bon dénivelé. Pourquoi avoir choisi peut-être un parcours qui est si complexe, Patrick?
Bon, on parle d'un sentier qui est intermédiaire habituellement, là, si on prend la nomenclature vraiment des trekking. C'est sûr que dans les Monts-Groulx, on peut retrouver de tout. On peut avoir là vraiment des sentiers un peu plus extrêmes. Le sentier du Mont-Arfan, en fait, je vous dirais qu'il se fait aller-retour peut-être en 4h, 4h30, dépendamment du niveau de condition physique. Non, c'est pas si mal. Mais c'est sûr que là, dans notre cas, dans nos randonnées préparatoires, on a vraiment des personnes qu'il faut escorter un à un. Là.
Ben
donc,
oui.
On ajoute peut-être un 50% de temps. Le but ne sera pas d'y aller pour un concours de temps non plus. On veut aussi prendre le temps parce que quand on est au sommet des Monts-Groulx, on a un climat qui est arctique alpin, en fait. C'est qu'il n'y a plus aucune végétation. On a vraiment un climat qui se ressemble à une toundra dans les 200 derniers mètres de l'ascension parce qu'on est quand même au 52e parallèle, donc c'est intéressant pour ça. C'est aussi de vivre un peu là, l'espèce de prise de conscience, une espèce de partie, je pourrais dire, là, qui est vraiment de vivre l'expérience d'arriver à un sommet d'une montagne qu'on veut offrir. Donc, on va pas on se donne une journée. Donc, on part vers 10h le matin, puis on veut revenir là, pour le souper. Donc, on se donne plus de deux fois le temps que ça peut prendre, dans le but, justement, de que chacun arrive à destination, chacun puisse dépasser ses limites, puis surtout le faire en groupe, là, pas dans une idée de concours, mais dans une idée de support et de complémentarité. Là.
Donc, vous ne dormirez pas dans une tente? Il n'y a pas question de ça? Là.
Ben, en fait, vendredi, c'est le départ de Baie-Comeau. Quand on va arriver sur place, on va faire un campement là, à la base. On sait sûr qu'on a une station, on a un certain point de service qui est présent là, pour les besoins de base, mais nous, c'est sûr aussi, toute l'expérience de la survie et du camping sauvage, c'est quelque chose qui était fondamental mental à l'aventure. Donc, on ne peut pas dormir au sommet pour des raisons, en fait, là, de faire attention aux traces qu'on peut laisser dans des territoires qui sont vierges. Il faut préserver ça comme ça. Mais on fait un campement de base vraiment au pied de la montagne. Donc, il va au moins avoir une des deux nuits qu'on va passer là, en campement en tant que prospecteur, donc vraiment avec l'alimentation, un contexte de plein air. Puis c'est des choses qu'on veut transférer aussi aux participants qui viennent avec nous, là, tout ce savoir-là puis ce beau bagage-là.
Pour vos participants plus jeunes, là, je pense qu'il y en a qui ont 13 ans,
oui.
Pour les parents, de les laisser partir pour une nuit avec leur bagage dans ce genre d'aventure-là, est-ce que c'était un gros morceau?
Ben, il y a deux choses. C'est sûr que nous, là, c'est pas la première fois là qu'on offre ce genre de service-là avec mon équipe principalement. Donc, il y a un sentiment de confiance qui a été fait très rapidement avec le groupe. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on amène on a 13 participants, mais chaque participant est jumelé avec soit un proche significatif ou un éducateur ou un intervenant d'un service là, ici sur la Côte-Nord qui a déjà un lien de confiance avec lui. Donc, on pourrait dire qu'on amène, oui, 13 participants, mais c'est plus 13 pairs de grimpeurs. Souvent, c'est un parent, ça peut être un frère, un oncle, père-mère. Donc, on a aussi une dynamique là, d'accompagnateur pour ces jeunes-là qui viennent. Donc, la plupart sont chapeautés par un proche. Sinon, nous, là, en tant que guide, on est 6 facilitateurs qui montent aussi avec eux là, sur le terrain pour assurer qu'on n'a pas de mésaventure et que tout se passe dans le dépassement de soi et surtout dans le bonheur.
Vous parlez de dépassement de soi. Évidemment, les participants vont retenir ça. Qu'est-ce que ça va leur apporter aussi, cette expédition-là?
Ben, je voudrais que ça, c'est professionnellement, c'est mon principal cheval de bataille, si je peux dire ça comme ça. On parle un peu d'intervention plein air avec des clientèles qui ont des difficultés. Souvent, on a peut-être une mauvaise idée de ce que c'est, puis c'est encore moins connu au niveau des établissements qui offrent ce type de service-là. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir une aventure qui, oui, on passe par la nature, mais on veut aussi répondre à un besoin qui est présent chez ces clients-là. Donc, pour chaque personne, c'est de regarder au niveau soit des plans d'intervention, des besoins spécifiques qu'on a à combler, vers quel objectif clinique on veut aller avec les personnes. Puis nous, c'est de jumeler peut-être un nouvel outil, mais pour amener vraiment un transfert qui est très, très concret. Fait que le dépassement qu'on vit, la persévérance qui est présente, c'est un peu le but d'amener les proches aussi avec les clients pour qu'ils puissent observer, souvent dans les nouvelles manières de faire, des nouvelles conduites qu'on n'aurait pas pensé. Il y a même déjà des clients là, qui ont dépassé leurs limites, puis même eux sont surpris. Puis on a leur éducateur de leur centre qui sont présents, puis ils sont capables de les réinvestir par la suite dans les prochains découragements, faire de la généralisation de conduite. En fait, c'est peut-être pas une montagne qu'ils vont avoir à monter, mais peut-être une insertion vers un marché du travail qui est peut-être plus difficile ou à transférer les conduites qui ont été expérimentées dans un contexte d'aventure. Donc, pour nous, c'est vraiment notre souhait qu'on fait des projets d'aventure comme ça avec différentes clientèles.
Oui, de développer de nouveaux acquis, de nouvelles aptitudes. C'est très intéressant, Patrick. En terminant, évidemment, il faut parler de Destination Loisirs, qui est un événement que vous voulez créer, en fait, à Baie-Comeau en 2018, qui s'apparenterait un peu aux Jeux du Québec. Parlez-nous-en un petit peu de Destination Loisirs.
Je donne souvent l'exemple des Jeux du Québec pour parler à quelqu'un.
Ça image bien, oui.
Ouais, ben ça rejoint peut-être, on connaît bien, là, donc ça image bien un peu le principe, mais c'est déjà présent depuis plusieurs années. Je pourrais vous dire, là, si je regardais dans mes papiers, étant dans le comité organisateur, donc c'est la troisième fois que ça va être sur la Côte-Nord, donc depuis, je pense, une vingtaine d'années environ. Là, en 20 ans, c'est la troisième fois qu'on peut recevoir, qu'on reçoit Destination Loisirs. On reçoit vraiment des délégations, en fait, de toutes les régions du Québec qui viennent nous rejoindre. On parle peut-être entre 30-40 participants par région. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent, principalement au niveau des gens avec une déficience intellectuelle qu'on peut retrouver, mais c'est aussi là, déficience visuelle, déficience physique, TSA, ça ressemble beaucoup en fait au groupe qu'on a composé pour partir. Donc, notre but avec ce projet-là de déplacement les montagnes, c'est que chaque personne avait allé à chercher une certaine commandite. Puis nous, en tant qu'organisateur, on cognait aussi aux bonnes portes, aux partenaires Cégep de Baie-Comeau. On a le Club Lyon aussi qui nous ont donné un grand montant, donc... Tous nos supporters sont disponibles. On a une page Facebook qui s'appelle Déplaçons les montagnes, si jamais ça peut intéresser certaines personnes d'aller voir. Donc, nous, ce sera une levée de fonds pour ça. On souhaitait amasser un montant. Je voudrais que les coûts, là, c'est très faible parce qu'on a des bons partenaires déjà. Donc, on souhaitait amasser environ 10 000 $ pour le projet. Puis présentement, on est autour de 25 000 $. Donc, c'est vraiment, ça va dépasser nos attentes au niveau local. On a une belle visibilité et un beau support là, de nos acteurs locaux aussi.
Mais c'est parce que c'est un projet qui est formidable, Patrick. Je me permets une petite parenthèse. Est-ce que vous avez un participant qui s'appelle Mathieu Lamontagne?
Faudrait que je vérifie, c'est sûr que...
J'ai ça, moi, dans mes notes, et je trouvais ça bien rigolo. Nom de famille, la montagne, qui s'en va faire l'ascension du Mont Afan. Bref, si c'est le cas, vous le saluez, bien sûr. Je vous souhaite la meilleure des chances pour cette fin de semaine, Patrick Castonguay. À vous et à toute l'équipe, c'est un formidable projet que Déplaçons les montagnes. Merci beaucoup.
Bien, un grand merci de l'intérêt. C'est bien toujours partager ces projets-là, surtout dans une nouvelle approche qu'on entend peut-être moins parler. Donc, il y a déjà d'autres projets qui s'en viennent, donc j'imagine qu'on va se reparler.
J'espère qu'on pourra en reparler. Au revoir, Patrick.
Grand plaisir. Bye-bye. Bonne journée.
Est-ce que les hommes proches aidants ont des défis différents, des besoins différents, et est-ce qu'on devrait leur apporter une aide plus particulière? Est-ce que leur rôle se définit différemment? Ce sont des questions que je pose à l'instant à Rosanne Saint-Paul. Elle est coordonnatrice du projet des outils pour les aidants du côté du réseau d'action pour les aidants de Jeanne-Mance. Rosanne, bonjour!
Bonjour, merci de m'inviter aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Donc, des hommes proches aidants, il y en a 42 % en ce moment. On pourrait, bien sûr, c'est un pourcentage qui pourrait s'élever dans les prochaines années. Et pourtant, vous avez constaté qu'ils sont très peu à être perçus sur le terrain. Peut-être 10 à 20 % viennent vers vous. Et vous vous êtes dit qu'en fait, peut-être que c'était plus difficile d'aller les chercher, d'aller les interpeller.
Exact.
Alors, parlez-nous un petit peu de cette approche-là que vous avez avec les hommes proches aidants.
Oui, alors effectivement, je suis coordonnatrice d'un projet qui s'adresse aux proches aidants sur le territoire de Jeanne-Mance à Montréal. Et on constatait dans les dernières années que les personnes qui fréquentent le service d'activité psychosociale sont des femmes généralement. Donc, dans nos proches aidants, c'est à peu près, comme vous disiez, 15 à 20 des proches aidants qui sont des hommes. Et donc, la question se pose également pour d'autres organismes qui remarquent la même tendance dans leur réseau.
Est-ce que c'est parce que les hommes ont moins tendance à se manifester ou peut-être se définissent moins comme des proches aidants lorsqu'ils aident un proche malade ou en fin de vie?
Oui, effectivement. La difficulté de se définir comme proche aidant est présente un peu partout. Oui. Mais effectivement, les hommes aidants qui se retrouvent, disons, dans une situation où ils doivent réapprendre ou apprendre plutôt de nouvelles responsabilités, ils vivent une difficulté de plus. Donc, ça peut être en lien avec la génération, avec l'âge. Des personnes qui se retrouvent à un certain âge où leur conjointe tombe malade et doivent non seulement prendre ou faire face à la situation de la maladie, mais aussi réapprendre ou apprendre à faire la cuisine ou assurer l'entretien ménager ou des tâches qui étaient plus ou moins assurées par la conjointe en question.
Oui. Vous avez aussi voulu faire des études sur le sujet, Rosanne.
En fait, ce qu'on avait voulu faire, c'était d'initier la discussion avec des organismes du territoire, puis avec les proches aidants eux-mêmes, et en fait faire la recherche et à savoir qu'est-ce qui avait déjà été étudié. Mm-hmm. On a réalisé que la revue de littérature était très peu étoffée. On a remarqué qu'il y avait une étude qui a été publiée en 2012. Et on a aussi pris contact avec un chercheur qui va diffuser des résultats cette année, en 2017. Donc, c'est surtout dans ce cadre-là qu'on a voulu entamer la conversation, puis organiser une conférence sur le sujet.
Oui. Est-ce que ça vous a permis de faire un portrait des hommes proches aidants?
Oui. En fait, les deux données combinées nous permettent de comprendre que les hommes proches aidants ont tout aussi le besoin de soutien psychosocial. Mais que leur type d'aide, le type d'aide qu'ils consacrent à leurs proches est différent. Donc, ils vont être plus enclins à offrir des services pour les travaux extérieurs ou pour faire la gestion des soins, si vous voulez, donc faire le lien entre le proche et le réseau de la santé, faire la recherche de soins, faire le transport également. Tandis que les femmes vont être plus enclines à faire les travaux intérieurs, le soin personnel, les soins médicaux, etc. Mm-hmm. Donc, ce qu'on remarque aussi, c'est que même si ces différences sont notables, beaucoup d'aidants, d'hommes aidants disent qu'ils bénéficieraient, disons, de pouvoir en parler, de pouvoir avoir accès à un groupe d'entraide, mais qu'ils ne connaissent pas ou peu les services de ce genre. Donc,
évidemment, voilà. Ça sonne une petite cloche d'alarme auprès des organismes pour les proches aidants de se dire, OK, il faut se positionner, il y a un besoin qui est là, qui est manifesté, comment on y répond?
Exactement.
Et ça vous a amené à vous dire, dans votre cas, Rosanne, comment on répond aux besoins des hommes proches aidants?
Exactement. Donc, comment on répond aux besoins? Déjà, il faut se poser la question, il faut en discuter, et puis leur demander, disons, aux hommes qui fréquentent le service, comment est-ce que les services pourraient être plus adaptés. Puis ensuite, c'est sûr qu'il faut faire un examen introspectif pour voir comment est-ce que nos activités pourraient être plus accessibles ou adaptées aux besoins ou aux demandes de ces proches aidants.
Ouais. Quels sont les services offerts qui sont déjà en place pour les hommes proches aidants?
Pour les hommes proches aidants, je sais qu'il y a déjà eu des groupes d'entraide qui ont été mis en place, donc des groupes non mixtes. Mais généralement, ou disons, dans l'étude qui est parue en 2012, on réalise que les hommes n'ont pas nécessairement besoin d'un atelier ou d'une activité qui soit uniquement pour hommes, mais ils aimeraient avoir des activités qui soient plus concrètes. Donc, vraiment, apprendre, ils sont plus dans l'apprentissage. Donc, que ce soit apprendre à faire la cuisine, que ce soit avoir accès aux ressources ou aux informations les plus pertinentes. Ça serait le type d'activité, donc, informative, mais aussi concrète que les hommes proches aidants souhaiteraient le plus, mais sans oublier que certains d'entre eux ont quand même besoin d'un soutien psychosocial parce qu'il y a l'isolement social parfois qui est vécu.
Ouais. Ils ne sont pas exemptés de ça ou protégés parce qu'ils sont des hommes.
Non, exactement. Puis le stéréotype persiste, à savoir que bon, les hommes sont forts, ils ne doivent pas se montrer vulnérables où ils peuvent toujours être présents. Donc, ce stéréotype-là existe malgré tout, encore en 2017. Puis, c'est un stéréotype qui peut nuire aussi à la démarche de proche aidant, puis à l'aidant lui-même, étant donné que les proches aidants hommes auront moins tendance à aller chercher de l'aide psychosociale.
Oui. Donc, encore là, de là, le besoin que les organismes soient présents pour accueillir ces hommes-là. D'ailleurs, il y aura cette conférence que vous offrez demain, donc 8 juin, pour mieux connaître les caractéristiques des hommes aidants. Qui vous invitez à cette conférence-là?
Oui, nous invitons deux panélistes, donc Jacques Roy, qui est un chercheur à l'Université de Laval à Québec, et également Pierre Lheureux, qui est intervenant et lui-même proche aidant. On les invite à venir discuter, à présenter leurs résultats de recherche, mais aussi de terrain. La rencontre va être animée par René Charret, qui est organisateur communautaire. Et le panel aura effectivement lieu demain, donc le 8 juin, en après-midi, de 13h30 à 16h30, au Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine-d'Alexandrie, à Montréal.
Oui. Pour savoir s'il reste de la place, on peut aller, on peut vous écrire à projettrage@gmail.com, projet@gmail.com. Rosanne Saint-Paul, est-ce que les hommes proches aidants toujours, ont besoin de se retrouver ensemble pour échanger, pour se reconnaître, pour sentir qu'ils ne sont pas seuls ou ce besoin-là ne se fait pas réellement sentir?
Alors oui et non. Les hommes proches aidants ont besoin de connaître l'expérience d'autres hommes proches aidants, mais c'est quelque chose qui se remarque chez tous les proches aidants, en fait. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement caractéristique des hommes proches aidants uniquement. Et par contre, les hommes aidants semblent avoir des besoins différents à cause de leur trajectoire de vie. Donc, ils ressentent peut-être un plus grand besoin d'apprendre, auraient besoin de plus de répit en raison de leur sentiment d'isolement. puis aimerait effectivement rencontrer des gens pour briser leur isolement.
Ouais. Et vous disiez quelque chose de très intéressant tout à l'heure, Rosanne, par rapport au rôle qui peut être différent. L'homme proche aidant assure pas nécessairement les mêmes tâches qu'une femme. Donc, en tant que qu'organisme, en tant qu'acteur dans le domaine, c'est important de le détecter assez rapidement pour aller pallier au manque que ça peut amener dans une relation de proche et d'aider.
Oui, exactement. Exactement, parce que le défi pour les organismes, c'est de repérer les proches aidants en général, mm-hmm. à la fois pour les organismes communautaires, mais pour les intervenants du réseau de la santé. Donc, essayer de repérer la personne quand elle ne se définit pas nécessairement elle-même comme proche aidant, ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Et donc, oui, effectivement, c'est important de connaître les caractéristiques de chaque type de soutien qui peut être apporté par un proche aidant pour pouvoir intervenir.
En terminant, Rosanne, il nous reste un tout petit peu de temps pour parler de ce projet dont vous êtes la coordonnatrice, des outils pour les aidants qui est autre chose.
Oui, exactement. Donc, le projet existe depuis 2014. C'est un projet qui offre des ateliers de soutien psychosocial, donc des groupes d'entraide hebdomadaires, mais également des ateliers mensuels, donc aux proches aidants de notre territoire. On a aussi pour objectif de sensibiliser la communauté et les organismes du secteur et les intervenants sur la problématique, donc en faisant des présentations et des conférences grand public. Donc, si les auditeurs veulent plus d'informations, ils peuvent aussi me contacter au 438-969-1752 ou à l'adresse courriel projetrage@commercial.gmail.com.
Parfait, on glissera ça sur notre site. Rosanne Saint-Paul, coordonnatrice du projet des outils pour les aidants. Et également, on rappelle cette conférence qui a lieu demain du côté du Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie. Pour mieux connaître les caractéristiques des hommes aidants. Et tout ça, c'est en après-midi à partir de 13h30. Merci beaucoup, Rosanne.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Pour le dernier segment de cette émission, vous savez, j'aime vous parler d'un coup de cœur, d'une découverte. J'aime attirer votre attention sur quelque chose qui peut vous faire du bien. Et bon, j'en profite pour vous faire une petite confidence. Je suis plutôt sujette à l'insomnie et ce, depuis que je suis toute petite. J'ai des périodes où ça se passe mieux, des périodes où, bon, disons que le sommeil se fait désirer. Et depuis quelques années, j'utilise la méditation. C'est une technique que j'ai pu découvrir et qui m'aide beaucoup pour arriver, bon, d'une part, à me calmer avant le dodo et également ben, avoir une meilleure nuit de sommeil, un sommeil qui est plus profond, un réveil qui est plus heureux également. Et ça tombe bien parce qu'il y a Nicole Bordolo qui a sorti un livre le 24 mai dernier. Ça s'appelle « Revenir au monde, vivre au cœur de l'instant présent grâce à la méditation ». C'est paru aux éditions de l'Homme. Nicole Bordolo, c'est une femme que j'aime beaucoup. Et ce livre-là, il pourrait vous aider si vous avez envie de sortir un peu des formules toutes faites lorsque, bon, on pense à la méditation, aussi des gadgets. Et parfois, on ne sait pas vers quelle technique se tourner. Il faut dire qu'il y en a plusieurs. Eh bien, Nicole Bordolo nous en propose une à travers ce livre-là, une méthode qui est toute simple. Bon, fait avec des exercices accessibles, un enseignement qui peut convenir à tous et qui nous guide, bref, à travers l'apprentissage de la méditation. La méditation, ça sert à revenir dans le moment présent et ça sert aussi à revenir à soi. Donc, évidemment, à calmer cette anxiété-là qui n'est peut-être pas souhaitable avant d'aller au lit et à revenir à une pleine conscience. Évidemment, ben, c'est une pratique quotidienne qui va nous aider de façon plus sérieuse. Parfois, la discipline n'est pas au rendez-vous en ce qui a trait à une nouvelle habitude de vie. La méditation, hein, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Il faut s'y mettre un peu du sien. Et ben, cet outil-là, ça pourra vous guider. Donc, « Revenir au monde » de Nicole Bordolo, paru aux éditions de l'Homme et que vous pouvez trouver maintenant en librairie. Il y a même un format numérique pour ceux qui sont un petit peu plus techno, qui n'ont peut-être pas envie de tenir le livre dans leurs mains, dans le lit, mais de plutôt l'écouter, hein. on se sert de nos oreilles à ce moment-là. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Merci d'avoir été des nôtres encore cette semaine. J'espère que c'est une émission qui vous aura fait du bien. Je remercie les gens qui ont pu faciliter la création de cette émission. C'est Jean-Sébastien Laliberté et Maurice Bolduc à la technique cette semaine. Christiane Campagna est aux médias sociaux et à la revue de presse. C'est Sylvie Rivard et Louise Vien à la recherche. J'ai beaucoup de chance. Grosse équipe qui s'occupe de C'est bon pour la santé. Je remercie également tous les participants de cette émission. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à partir de 17 heures et qu'il y a différents moyens de nous joindre. Vous pouvez le faire par téléphone au 1-800-361-0635. C'est le poste 220. On est également bien présent sur Twitter. On est présent sur Facebook. Notre site web est canalm.vusezvoix.com. Marianne Paquette au micro. Je vous salue. Portez-vous bien.